Chapitre 7. La proposition de Geneviève avait causé à Mademoiselle de Puylaurens autant de joie que d'inquiétude. D'un côté, elle était heureuse de trouver chez cet enfant, à laquelle elle s'attachait chaque jour davantage, les qualités que cette proposition affirmait si hautement. La fierté, la générosité, l'oubli de soi et le souci des siens. Mais d'autre part, c'était pour elle un sujet de grave préoccupation, sinon dans le présent immédiat, au moins dans un avenir plus ou moins rapproché, que la constatation de ses qualités qui pouvaient entraîner loin et même très loin cet enfant au cœur généreux. Qu'elle mourût dans un délai prochain, dans quelques mois, dans quelques jours, laissant sa fortune à Geneviève, que deviendrait cette fortune ? Elle n'avait pas attendu jusqu'à ce jour pour examiner cette question et la pensée que l'héritage qu'elle laisserait à sa petite nièce serait administré pendant quelques années par M. de Mussidan avait été pour elle un cruel tourment. C'était un singulier administrateur que M. de Mussidan. Mais enfin, dans ce cas, et en prenant toutes les précautions que les gens de loi lui avaient indiquées, il ne pourrait que gaspiller les revenus de sa fille sans sérieusement compromettre le capital. Mais maintenant, et après ce que Geneviève lui avait dit, il n'y avait plus à se préoccuper seulement de l'administration de l'héritage qu'elle laisserait, il fallait penser à l'héritage lui-même et à ce qu'il deviendrait entre les mains de cet enfant. Avec les idées qui étaient les siennes et dans les dispositions où elle était, comment la fille résisterait-elle aux demandes de son père et la petite sœur aux obsessions de ses frères ? Mademoiselle de Puylaurens savait par expérience quelles étaient ses demandes et quelles étaient ses obsessions, comment procéder le père et comment procéder les fils. Que ne leur avait-elle pas cédé ? Que ne leur avait-elle pas donné à l'un pendant plus de 20 ans, aux autres tant qu'elle avait eu l'espérance qu'il finirait par s'arrêter ? Que ne lui avait-il pas fallu des preuves sans cesse renouvelées pour qu'elle ne se laissât pas ruiner par eux successivement ? Et elle n'était pas une enfant, mais une femme qui connaissait la vie et qui avait vu sa sœur, la comtesse de Mussidan, aux prises avec les passions de son fils, à demi ruinée, tuée par lui. Que ferait Geneviève, inexpérimentée et tendre comme elle l'était ? Que n'obtiendrait-il pas d'elle par la prière, par la menace, par la rouerie et l'escroquerie, ou spontanément par cela seul qu'elle les aimait et que ses idées sur la justice étaient que celui qui avait devait partager avec ceux qui n'avaient point. Qu'elle fût mise en possession de son héritage demain ou dans un court délai, avant que l'âge fût venu, et elle commencerait par le partager, cet héritage, avec son père et ses frères. Puis, quand ceux-ci auraient dissipé la part qu'elle leur aurait abandonnée, ils lui mangeraient en détail, mais rapidement, celle qu'elle se serait réservée. Si elle avait eu Geneviève à 10 ans, comme elle le voulait, elle l'aurait préparée, et, dans une certaine mesure, elle aurait su atténuer les dangers qu'elle redoutait. Malheureusement, il n'en avait pas été ainsi. Maintenant, en aurait-elle le temps, et Geneviève à 15 ans serait-elle docile comme elle l'aurait été à 10? Ah, si seulement elle avait encore 10 ou 12 ans à vivre! Mais avec une santé aussi misérable que la sienne, n'était-ce pas folie de parler de 10 ans? Avait-elle quelques années, quelques mois seulement à espérer? Sincèrement religieuse comme elle l'était, la mort n'avait rien pour l'effrayer, mais quand il ne s'agissait que d'elle, et non quand elle pensait à ce qui arriverait lorsqu'elle ne serait plus là. Ces bonnes œuvres qu'elle avait fondées, ces malheureux qui ne vivaient que par elle, cette maison de son ancêtre qu'elle avait relevée, ce nom de Puylaurens qu'elle voulait qui vécût glorieux, tout cela s'écroulerait-il, détruit par M. de Mussidan et ses fils? Cette idée était bien vite devenue une obsession dont elle ne pouvait se débarrasser ni le jour ni la nuit. Elle avait demandé au docteur Azéma ce qu'il pensait de sa santé et combien de temps il lui donnait encore à vivre, mais elle n'avait pas pu tirer de lui une réponse sérieuse. Et quand elle l'avait prié, supplié de lui parler franchement, en lui expliquant pour quelle raison elle voulait la vérité, elle n'avait obtenu que des assurances vagues qui ne pouvaient pas la rassurer. Elle avait alors résolu d'aller à Toulouse voir un autre médecin qu'elle avait consulté quelquefois et en qui elle avait toute confiance. N'étant point en relation quotidienne avec elle comme le docteur Azéma, celui-ci la jugerait mieux. Et n'ayant point pour elle une réelle amitié, il lui parlerait sans ménagement, s'imaginait-elle. On demande bien à un avocat si l'on perdra ou ne perdra pas un procès. Ne peut-on pas demander à un médecin si l'on perdra ou ne perdra pas la vie ? Mais elle n'obtint de celui-ci rien de plus qu'elle n'avait obtenu du docteur Azéma. Elle pouvait vivre, elle pouvait mourir, nous sommes tous mortels, les condamnations des médecins n'ont jamais fait mourir personne, leurs certificats de bonne santé n'ont jamais donné la vie, tous les lieux communs qu'on répète quand on ne veut rien dire. Et justement, parce qu'on semblait ne rien vouloir lui dire, cela avait quelque chose d'inquiétant. Elle eût été en bon état de santé qu'on n'eût pas pris tous ces ménagements. On se fût moqué d'elle. Est-ce qu'avec une santé comme la vôtre, on parle de la mort ? Puisque les médecins ne pouvaient pas ou ne voulaient pas l'éclairer, c'était aux gens d'affaires de la guider. Il devait y avoir dans la loi des moyens pour qu'elle assurât sa fortune à Geneviève, sans que ni M. de Mussidan, ni Sébastien, ni Frédéric missent la main dessus. De même qu'elle avait, à Toulouse, un médecin pour les cas graves, de même elle avait aussi un avocat, et elle décida de le consulter. Geneviève et Buvin, qu'elle avait emmenés avec elle, étaient restés dans le fiacre qu'elle avait pris à la gare, et il attendait à la porte du médecin. « J'ai encore une visite d'affaires, mon enfant, » dit Mademoiselle de Puy-Laurence en montant en voiture. « Pardonne-moi de t'imposer cet ennui. » Et elle donna à Buvin l'adresse de l'hôtel Flair, où demeurait son avocat. « J'espère ne pas rester là trop longtemps, » continua Mademoiselle de Puy-Laurence, pendant que la voiture roulait sur les cailloux pointus de la Garonne qui servent de pavés dans la plupart des rues tortueuses de la ville. « Mais en attendant, tu pourras t'amuser à étudier les sculptures de la cour de cette jolie maison qui, avec l'hôtel d'Assezat et l'hôtel Felsin, est une des curiosités de Toulouse. » « Ça n'est pas du XIIIe siècle, mais quand on aime la Renaissance, c'est charmant. Je te recommande une vieille femme qui est vraiment très belle. » Et, après avoir mis sa nièce en face de cette vieille femme, Mademoiselle de Puy-Laurence monta chez son avocat. Là, elle recommença le récit qu'elle avait déjà fait à son médecin, mais avec une conclusion différente, ne demandant plus combien elle avait encore de temps à vivre, demandant seulement quels moyens la loi mettait à sa disposition pour assurer sa fortune à sa petite nièce, sans que ni le père ni les frères de celle-ci puissent y toucher et sans qu'elle-même, dans un élan filial ou fraternel, pût la leur donner. C'était un bonhomme curieux que le père Ginsac, une des lumières du barreau de Toulouse. Il était l'homme le plus bavard de la terre, et comme son besoin irrésistible de parler sans cesse, d'interrompre, de placer un mot, une réflexion, un récit, lui avait beaucoup nui dans sa jeunesse, ses clients ne pouvant jamais arriver à lui exposer entièrement leur affaire qu'il connaissait mieux qu'eux avant qu'ils l'eussent contée, il avait inventé un moyen original de s'imposer silence. Tant qu'un client lui parlait, il se bourrait le nez de tabac, si longues que fussent les explications qu'il écoutait. Et quand il parlait à son tour, il ne prenait plus une seule prise. Ce fut accompagné par ces reniflements sonores que Mademoiselle de Puy-Laurence fit son récit. Mais comme elle avait déjà entendu plusieurs fois cette musique qui troublait bien des gens, elle ne s'en inquiéta pas. « Quel âge a l'enfant ?» demanda l'avocat, cessant de plonger ses doigts dans sa tabatière qui restait grande ouverte sur son bureau. « Elle aura bientôt 15 ans. » « Bon, maintenant, autre question. Êtes-vous certaine de ne pas changer de disposition à son égard ? Autrement dit, consentiriez-vous à lui faire, dès maintenant, donation irrévocable de votre fortune ?»« Parfaitement, mais pour cela, il faudrait que je fusse certaine que cette fortune sera pour elle, rien que pour elle. » « C'est justement ce que peut vous assurer le moyen que je vais vous proposer. Et il est bien simple ce moyen, tout naturel. » Il consiste à marier votre nièce le jour où elle aura ses 15 ans révolus. « Marier Geneviève ?» s'écria Mademoiselle de Puy-Laurence. « C'est ce qu'il y a de plus sûr. Tout ce que nous chercherons à côté aura ses dangers. Assurément, mademoiselle, vous n'avez rien d'une personne qui doit mourir prochainement, mais enfin, il est possible que vous soyez tuée demain. Un accident, une tuile sur la tête, une maladie subite, que sais-je ? Dans ce cas, c'est le père de cette jeune personne qui administre la fortune que, par votre testament, vous avez laissée à votre nièce. Quelle sera cette administration ? Nous aurons pris toutes les précautions, je le veux bien. Mais un homme habile et peu scrupuleux dispose de bien des ressources. Quand je vous énumérerai tout ce qu'il pourrait faire, cela serait fastidieux. Je reviens donc au moyen que je vous propose et qui est sûr. Vous mariez votre petite nièce et, par contrat de mariage, vous lui constituez en dot votre fortune entière au terme de l'article 1541 et vous lui en faites donation. Or, vous savez qu'au terme de l'article 1541, les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués ni par le mari ni par la femme, sauf certaines exceptions qui, dans notre situation, ne présentent aucun danger, c'est-à-dire pour l'établissement des enfants, pour fournir des aliments à la famille, etc. Ma conclusion est donc que vous trouviez un bon mari à cet enfant et que vous la mariez au plus tôt. Tout ce que nous chercherions à côté serait dangereux. Cela seul offre toutes les garanties désirables. Constitué en dot, votre fortune échappe aussi bien aux élans de votre jeune nièce qu'à ceux de son mari, et elle passe à leurs enfants.